Amis auditeurs, merci d'être fidèles et toujours à l'écoute de l'autre radio sur le 107.9 à Château-Gontier et sur le 101.7 à Laval. Le 2 avril est la journée mondiale de l'autisme et à cette occasion, différents partenaires sur la ville de Mayenne ont mis en place le mois de l'autisme à Mayenne, comprendre pour en construire ensemble une société inclusive. Pour nous en parler cet après-midi autour de la table, nous recevons différents acteurs de ce programme. Nous avons Virginie Lafourcade, présidente et fondatrice de l'association Coxy Bleu. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous cet après-midi. Nous avons Christophe Doussin, directeur du Centre Social Agitato. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Merci aussi d'être avec nous cet après-midi.
Merci d'avoir invité.
Sarah Palardi, qui est animatrice du contrat local de santé Mayenne Communauté. C'est bien ça?
Oui, c'est ça.
Bonjour Sarah et merci d'être ici. On va essayer de comprendre un petit peu pourquoi vous avez mis en place ce mois d'avril, en tout cas sur l'autisme. On va commencer avec vous, Virginie, du coup, avec toi, je me permets, pour nous expliquer un petit peu la genèse de ce projet, en tout cas comment ça s'est construit.
Alors,
Et nous présenter aussi l'association Coxy Bleu.
Oui, donc le projet, en fait, à la base, tous les ans, à l'occasion de la Journée internationale de l'autisme, on se saisit vraiment de cette date pour mettre en lumière ce qu'est l'autisme. Parce qu'en France, on a encore du mal à savoir ce que c'est réellement. On a beaucoup d'idées préconçues. On est très loin de tous les clichés que peuvent véhiculer les médias et de cette vieille vision de l'autisme aujourd'hui. Donc on organise tous les ans divers événements de sensibilisation à destination du grand public. Et pour cette année en particulier, on avait vraiment envie de mettre le paquet, de faire quelque chose d'assez conséquent. Et puis pourquoi pas, grâce à la rencontre avec Christophe de l'Agitato, se délocaliser sur Mayenne, parce que jusqu'à présent nous faisions nos actions sur Laval essentiellement, puisque nous sommes sur Laval. Mais on avait envie aussi d'étendre ces actions de sensibilisation à tout le département. Et puis, donc, l'occasion s'est présentée d'intervenir sur Mayenne, précisément.
Alors, on parlera de ce programme très riche et très varié tout le long du mois d'avril. Mais est-ce qu'on peut revenir sur la naissance de l'association Coxy Bleu en 2012,
oui.
C'est ça? Quel était un petit peu, pourquoi cette association?
Alors, l'association s'est construite autour de trois mamans, dont je fais partie. En 2012 sont sorties en mars très exactement les recommandations de la Haute Autorité de Santé pour l'autisme, à savoir la préconisation des méthodes comportementales et éducatives, une scolarité en milieu ordinaire, parce qu'aujourd'hui en France seulement 20% des enfants autistes vont à l'école, ou dans d'autres pays comme par exemple en Italie 100% des enfants vont à l'école, et bien d'autres pays d'ailleurs. Et donc avec ces deux autres mamans, nous avions déjà mis en place ces méthodes recommandées, avant même qu'elles le soient, avec nos enfants à la maison. Donc nous nous sommes formés, nous sommes partis en formation, nous avons fait diverses formations, et les progrès de nos enfants ont été assez conséquents. Et on s'est dit, c'est pas normal qu'en France, on n'ait pas accès à ça, qu'on n'ait pas accès à ces méthodes, que ce soit pas connu du grand public, que dans les institutions, ce soit pas mis en place, et que finalement, tout repose sur nous, parents. On fait beaucoup de sacrifices, hein. On arrête de travailler, on devient chauffeur de taxi, infirmier, clown, enfin, coiffeur. Et on avait vraiment envie, avec les autres mamans, de partager nos expériences pour tous les autres parents qui se retrouvent dans cette situation, confrontés à l'autisme, sans savoir quoi faire, vers qui se tourner, parce qu'on a un gros problème de professionnels compétents en la matière. Et on voulait qu'on puisse mutualiser tout ça avec les autres familles et surtout faire en sorte que ces méthodes soient enfin appliquées.
Comment tu expliques justement qu'il n'y a rien de fait, que justement tu parlais d'Italie où justement tous les enfants sont scolarisés, enfin comment tu fais en France, il se passe rien clairement, enfin pourquoi
c'est clairement les 40 ans de retard que nous avons accumulés en France sont clairement dus à une approche psychanalytique de l'autisme. Aujourd'hui, 80% des adultes en hôpital psychiatrique sont des autistes. Mmh. On ne les a pas pris en charge, on n'a pas fait ce qu'il fallait, ils n'ont pas été inclus. Du coup, ils n'ont pas progressé, ils ne sont pas devenus autonomes. Et aujourd'hui, ils sont enfermés dans des hôpitaux psychiatriques. Et comme on ne sait pas quoi en faire, on les met sous neuroleptiques. Et puis, ils sont attachés la plupart du temps pour éviter de poser problème.
Donc clairement, on ne fait rien et on continue de véhiculer des clichés, ce que tu disais tout à l'heure en introduction, des idées préconçues, et ça continue, clairement.
C'est bien ça. Et c'est pour ça qu'on se bat, parce que L'autisme, c'est très loin d'être ce que l'on peut s'en faire comme idée. Souvent, d'ailleurs, ce sont des personnes d'un certain âge qui s'en font une idée très particulière, qui est l'idée de l'enfant muré dans son silence, qui va s'automutiler, qui va se balancer, qui va baver. Mais en fin de compte, ça, c'est que des résultats d'une mauvaise prise en charge. Je vous enferme demain dans un hôpital psychiatrique, je vous bourre de neuroleptiques, je vous attache 24 heures sur 24, vous ne pouvez pas manger quand vous voulez, vous ne pouvez pas aller aux toilettes quand vous voulez, vous ne pouvez pas sortir comme vous voulez, mais je pense que n'importe qui devient fou.
Bien sûr.
Voilà. Donc c'est cette image-là de personnes autistes qui ne peuvent pas s'en sortir, alors que des progrès sont possibles dans tous les cas d'autisme, même si pour certains les progrès sont plus lents, l'autonomie va mettre plus de temps à se mettre en place, mais aujourd'hui on a toutes sortes d'outils pour les aider. Mais on ne s'en saisit pas malheureusement.
Tu parles clairement d'accompagnement, simplement accompagner les enfants, ce qui n'est pas fait.
C'est ça.
Et pourquoi on refuse encore ?
Parce qu'on est dans un système français où les fonctionnaires sont bien en place, ils ont leurs habitudes, ils ont leur manière de fonctionner, et puis ils n'ont pas envie de changer parce que ça demande un investissement humain, ça demande de la formation, ça demande du temps. Vous savez, quand on est dans un poste de fonctionnaire dans une institution et qu'on a été habitué à recevoir des enfants autistes et à leur faire faire des puzzles ou à les regarder patauger dans une pataugeoire une flaque d'eau, en termes d'énergie, ça ne demande pas grand-chose. Maintenant, quand il faut mettre en place des méthodes comportementales, c'est un gros investissement. Il faut y aller, il faut stimuler l'enfant, il faut jouer avec lui, il faut mettre en place des outils de communication alternatifs. Ça demande beaucoup d'investissement. Et malheureusement, les gens n'ont pas envie.
D'investissement, de l'argent, donc on préfère mettre de côté,
non.
Certainement.
Alors ça, c'est un faux prétexte qu'on ne peut plus entendre en tant que parent. Il n'y a pas de souci financier vis-à-vis de l'autisme. Ce n'est pas vrai. L'argent est là. L'argent est là, il est dépensé malheureusement dans des hôpitaux. Prendre en charge un enfant autiste dans un hôpital psychiatrique, à la journée, ça coûte 800 euros à l'État. C'est vous, contribuables, qui payez ces sommes-là, 800 euros. Alors qu'un enfant qui est bien accompagné, qui est scolarisé en milieu ordinaire, il ne coûte pas cet argent-là à l'État. Donc quelque part, on voit bien que l'argent y est, mais qu'il n'est pas distribué correctement.
Est-ce que tu peux comprendre que nous, quand même, lambda, on a cette image-là, parce que du coup, c'est l'image qui est véhiculée, qu'à un moment, on n'a pas toutes ces informations, du coup, d'où l'intérêt que tu puisses exprimer tout ça maintenant, mais que voilà, ces préjugés, on les véhicule aussi, parce que du coup, on n'a pas l'information, quoi.
C'est ça. C'est d'ailleurs pour ça que c'est très important pour nous de mener des actions de sensibilisation pour casser tous ces clichés, et surtout pour expliquer que l'autisme, c'est pas un handicap lourd dans le sens où une fois qu'on a un diagnostic, c'est figé, on peut plus rien faire, c'est terminé, sa vie est finie, il ne deviendra jamais autonome. Si je prends l'exemple de mon fils, quand j'ai voulu le scolariser en petite section de maternelle, l'école de ma commune n'en a pas voulu. Tout simplement parce qu'il ne tenait pas en place, parce qu'il n'écoutait pas, parce qu'il était non-verbal, parce qu'il n'était pas propre. Voilà, parce qu'il était compliqué, donc personne ne voulait s'en occuper. Seulement, j'avais déjà commencé à travailler avec lui, je savais qu'il faisait des progrès, je savais que tôt ou tard, les choses viendraient. On s'est accrochés, il a fini par aller dans une école sur Laval, dans laquelle il a été superbement bien accueilli, avec des enseignants qui ont vraiment eu à cœur de l'aider et de l'inclure au reste du groupe. Et aujourd'hui, il est en CE1, il sait lire, écrire, compter, il parle très bien. Il a un niveau d'anglais qui est équivalent à un niveau de 5e, donc il a aussi des pics de compétences dans certains domaines. Mais si j'avais écouté les institutions par lesquelles nous sommes passés, malheureusement, aujourd'hui, il sera en hôpital de jour.
Voilà, donc d'où l'intérêt de se battre et de continuer à se battre en tout cas.
C'est ça.
Du coup, tu parlais aussi des instituteurs, des institutrices. Du coup, ils sont pas accompagnés non plus, eux, ils n'ont pas non plus les méthodes. Enfin, on peut comprendre que c'est compliqué pour une petite école rurale, en tout cas, d'avoir peur, en tout cas, d'être dans ces clichés. Enfin, on revient toujours un peu à la même chose. Mais...
Oui, bien sûr. Bien évidemment que ça fait peur aux enseignants et bien évidemment que ça leur fait d'autant plus peur que quand on met un assistant de vie scolaire avec un enfant autiste, cet assistant n'est pas spécifiquement formé à l'autisme. Mmh. Il a quelques heures de formation à l'autisme, mais souvent aussi, ce sont des formations qui sont pas de très, très bonne qualité. Alors qu'on sait que quand on doit accompagner une personne autiste, il faut un bon bagage de formation. Mais voilà, de temps en temps, on tombe sur des enseignants qui sont pleins de bonne volonté, qui ont envie de bien faire, qui écoutent les professionnels aussi, parce qu'il y a des bons professionnels qui peuvent aussi leur donner des pistes, et qui écoutent les parents surtout. Nous, ça s'est fait comme ça à l'école. C'est-à-dire que moi, les enseignants, j'aurais dit, voilà, Dorian, il fonctionne comme ça, comme ça, comme ça. On a mis ça en place, ça en place, ça en place. Et ils ont suivi à l'école, ça. Et c'est pour ça que ça a fonctionné. Après, c'est comme partout. On va trouver des enseignants qui auront eu de mauvaises expériences avec des enfants autistes qui, du coup, resteront figés là-dessus et auront peur. Et des enseignants qui, au contraire, seront pleins de bonne volonté et vont essayer de faire au mieux. Et dans notre parcours, on a eu beaucoup de chance.
Alors du coup, ce mois de l'autisme, en fait, c'est pour accompagner et en tout cas surtout communiquer sur l'autisme, en fait, auprès du public. Comment s'est passée la rencontre, du coup, avec Christophe Doussin, du coup, du Centre Social? Et voilà, pourquoi se mettre en place avec des partenaires? Pourquoi Mayenne? Christophe, peut-être, du coup, comment s'est passée la rencontre avec Virginie?
C'est une rencontre un petit peu de hasard, voilà. Effectivement, enfin, ça, le projet qui vous est proposé, qui est proposé sur Mayenne au mois d'avril, c'est un projet qui a déjà été évoqué il y a à peu près une petite année. Mais le temps, effectivement, on voulait caler cette opération-là dans le cadre de la Journée mondiale, donc qui se déroule le 2 avril. Donc, ce qui a donné du temps à construire un projet qui, comme tu le précisais, qui est riche, qui est dense et qui se veut essentiellement être axé, effectivement, sur une question de prise de conscience, de sensibilisation. Pour appuyer les propos de Virginie, en ce sens où il y a fort à faire effectivement au jour d'aujourd'hui au niveau du public lambda,
il y a certainement tout à faire
des non concernés et en fait la rencontre avec Virginie qui est prévalue effectivement le fait que cette manifestation là se décentralise sur Mayenne, c'est une rencontre un petit peu de coup de cœur si je peux me permettre où Virginie au travers de son parcours a su m'émouvoir dans au travers de sa bataille quotidienne, de ce qu'elle a, et puis pour autant de l'enthousiasme qu'elle a apporté, l'association a apporté effectivement les évolutions du quotidien de son fils, donc voilà, donc c'est avant tout une rencontre, une belle rencontre qui fait que cette manifestation là se déroule sur Mayenne. Après, si je change un petit peu de casquette, et là je prends ma casquette de directeur de centre social, je pense que là c'est une fonction première aussi du centre social de s'inscrire dans un éveil des consciences, de travailler sur la notion d'acceptation, de tolérance, de l'ensemble des différences et quelles qu'elles soient. Et pour cause, je pense que, enfin, j'espère que, en tous les cas, la porte du centre social a été la bonne, puisque pas plus tard qu'hier, j'ai eu trois mamans qui se sont présentées à l'agitato. Pour avoir un peu plus d'informations sur le contenu qui proposait au mois d'avril et qui m'a permis de relayer effectivement directement le contact auprès de Virginie. Donc voilà, donc j'ose espérer que cette décentralisation qui se décroche d'une organisation habituelle sur Laval pour aller sur Mayenne permette à des familles aussi d'être un peu plus en proximité avec une réalité qui peut être dure. Et je vois une maman hier qui, enfin c'était plutôt une mamie qui venait au nom de sa fille qui relatait qu'effectivement un diagnostic vient de tomber pas plus tard qu'il y a 15 jours et que la maman elle est en grande souffrance de pouvoir elle est encore dans le déni, voilà pour le dire, elle est dans le déni aujourd'hui et que c'est la mamie qui aujourd'hui qui l'a éveillée en tous les cas sur la différence de son petit-fils qui accompagne aujourd'hui sa fille en disant ben voilà, je viens au renseignement de ce qui est proposé pendant ce mois d'autisme à Mayenne dans ce but justement d'essayer de tenter de convaincre ma fille de faire le premier pas. Alors elle me questionnait en disant ben selon vous sur quel alors vaut mieux que je l'amène sur les expositions, vaut mieux que je l'amène sur la conférence ou sur la soirée échange débat qui est proposée. Donc voilà, donc on a pu échanger au travers de ça. Donc je ressens qu'au travers de cette manifestation proposée, donc au travers des trois situations qui ont pu se présenter à moi, qu'effectivement, enfin voilà, malheureusement, il y a encore bon nombre de familles aujourd'hui qui sont dans un isolement, dans une souffrance, dans une recherche dans une quête de diagnostic aujourd'hui, parce que Virginie pourra l'expliquer, mais au travers de ce qu'elle a pu me raconter, me partager, pour se faire diagnostiquer aujourd'hui, c'est un cheval de croix. Enfin, c'est très 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 compliqué. C'est des démarches administratives qui s'inscrivent dans des longueurs et dans des, enfin voilà, de quoi en décourager plus d'un parent. Et effectivement, moi, si je reprends l'ambition du centre social au travers de ça, c'est travailler, comme je disais, sur cette inclusion sociale, sur cette tolérance. Et pour cause, notre activité au quotidien s'efforce de s'inscrire dans ces démarches-là. Et pas plus tard que l'année dernière, effectivement, on a pu expérimenter l'inclusion sociale d'enfants autistes, or dans un cadre un peu particulier puisque c'était dans une démarche de travail accompagné par une psychologue sur les habiletés sociales d'enfants, et on a pu s'apercevoir qu'effectivement tout le travail partenariat en lien avec le centre social et cette psychologue avait été d'une plus-value énorme pour les enfants qu'on avait intégrés dans des espaces de droit commun. Et je crois véritablement au fait que le centre social se doit au jour d'aujourd'hui et est inévitablement tourné vers ça. Donc d'emblée, moi, quand il y a eu ces prémices de projets qui se sont élaborées, mais j'ai souhaité d'emblée faire la proposition d'intégrer ça dans un dispositif porté par la collectivité Mayenne Communauté, donc du coup de faire le lien avec Sarah, qui n'était pas là à l'époque, mais voilà, ça, la personne qui la précédait, pour pouvoir intégrer cette manifestation dans le contrat local de santé. Mais voilà, je laisse Sarah peut-être...
Oui, peut-être Sarah, du coup, explique un petit peu le contrat local de santé et du coup, oui, l'idée, voilà.
Du coup, le contrat local de santé, il y a un axe prévention qu'on mène, donc des actions comme ça, qui peuvent être ponctuelles ou sur la durée. Et donc nous, on accompagne les associations, voilà, qui veulent mettre en place des actions pour voilà, sensibiliser le grand public, parce que souvent la désinformation, voilà, amène aux clichés qu'on a, et donc là c'est vrai qu'on a trouvé cette action intéressante, et donc on voulait favoriser ça, et notamment sur la connaissance des actions locales, voilà, parce qu'il y a des parents démunis face à santé, donc ça peut être autisme, mais handicap, tout handicap. Et donc c'est aussi accompagné sur des solutions qui peuvent être trouvées voilà, à Mayenne et aux alentours, parce que c'est vrai que dans des communes rurales, des fois il est difficile de trouver les interlocuteurs compétents sur certains domaines.
Mais je rajouterais juste, effectivement, enfin, derrière cette méconnaissance que tu évoquais tout à l'heure au travers des questions que tu posais, puis des clichés tout simplement, je crois qu'il y a une espèce, enfin, on a lutté contre ça effectivement, et d'autant quand on voit effectivement, on fait le lien avec ton parcours, Virginie, puis un report, enfin une soirée qu'il y a pu avoir pas plus tard que mardi soir sur France 2, avec une série de, à la fois un téléfilm suivi d'un débat et d'un reportage, on peut voir qu'il y a tout à faire et tout à construire au travers, malheureusement, de ces seulement 20% d'enfants scolarisés. Et quand on met en parallèle les marges de progression possibles qu'il peut y avoir. Et effectivement, enfin, on a ce devoir et de sensibiliser pour faire bouger à échelle de ce qu'on peut, mais les pouvoirs publics pour montrer qu'effectivement il suffit parfois de pas grand chose pour faire qu'un enfant d'une situation subie puisse se saisir de sa propre vie et puisse apporter effectivement des perspectives meilleures aussi pour tout l'environnement familial dans lequel il peut graviter, et surtout au travers des évolutions, parce que je me fais juste ce petit clin d'œil au travers du reportage qui a pu être présenté donc mardi soir, où on voit effectivement, et c'est, je sais, l'espère, ce à quoi on va répondre au travers de ce mois d'autisme, où on a pu voir au travers des différentes personnes interviewées qui sont porteurs d'autisme, de voir l'état de souffrance dans lequel elles ont pu passer, avec l'état de conscience, je dis bien, pour arriver aujourd'hui en étant passé par différentes, mais des batailles, vraiment des batailles, pour arriver aujourd'hui à tenter de à s'affirmer dans une société ou à y trouver place, mais non sans mal. Et pour autant, sans pour autant qu'il y ait des stigmates verbaux, cognitifs. Enfin voilà, j'avais en face de moi, dans ce que je regardais, des personnes avec un parcours complètement atypique. Et pour autant, tout à fait sensé dans ce qui était raconté, conscientisé. Enfin, donc voilà, je me dis que aujourd'hui, si rien ne se fait, effectivement, c'est encore malheureusement 80% des enfants diagnostiqués ou pas, qui malheureusement ont une voie toute tracée en psychiatrie, avec certes des prises en charge qui ont pu évoluer, mais pour autant avec des réalités qui restent neuroleptiques et qui résout en rien et qui n'apportent en rien une solution.
Juste Virginie, justement, qu'est-ce que tu as parlé du diagnostic tout à l'heure, c'est encore compliqué justement cette phase-là. Tu parles d'un chemin de croix, Christophe, clairement. Donc,
Alors, il y a quelques années, il n'y avait pas de diagnostic. Donc, et encore aujourd'hui, des adultes, comme je le disais tout à l'heure, qui sont en hôpital psychiatrique, ne sont pas diagnostiqués autistes. Hein. On a posé des diagnostics de psychose infantile, de dysharmonie évolutive, voilà, toujours des choses très, très en lien avec le rapport à la mère, au contexte familial, voilà, ce genre de choses. Aujourd'hui, ça a évolué, donc on arrive enfin à avoir des bons diagnostics avec de bons outils. Seulement, pour avoir ce diagnostic, eh ben, c'est une bataille, c'est une véritable bataille. Pour vous parler de mon histoire personnelle, j'ai eu les premiers doutes pour mon fils, il avait 18 mois. À l'âge de 12 mois, il évoluait parfaitement bien, il a commencé à dire ses premiers mots, il marchait, tout se passait bien. Puis à l'âge de 18 mois, il y a eu une régression. Donc il a commencé à avoir des mouvements stéréotypés, il ne parlait plus, il commençait à devenir très sélectif au niveau de l'alimentation. Et j'ai alerté plusieurs fois mon médecin généraliste en lui disant qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez mon fils. Et puis bon, on m'a renvoyé vers moi-même, hein, en me disant que je m'inquiétais trop, que voilà.
Si je peux me permettre, c'est tout à fait le parcours. Je fais le parallèle avec ce que j'ai vu et entendu pas plus tard que mardi soir. Effectivement, cette culpabilité systématique renvoyée,
ouais, c'est ça, on renvoie
maladroitement ou voilà, mais culpabilité renvoyée aux parents avec effectivement, c'est vous qui provoquez du fait de votre stress, de enfin,
c'est
compliqué là. On parle de la situation d'enfant, mais on ne parle pas du vécu
bien sûr. Quoi. Oui, et puis bon, alors plusieurs fois, je suis retournée le voir en lui disant non, il y a vraiment quelque chose, jusqu'au jour à l'âge de 2 ans et demi où là, il s'est enfin rendu compte parce que Dorian a effectué des stéréotypies dans son cabinet, donc là, il a bien vu qu'il y avait effectivement quelque chose. Il m'a dirigée vers un centre pour un prédiagnostic. Et dans ce centre, on a continué à renvoyer tout ceci vers moi en me disant qu'il était différent. Voilà, il n'y a jamais eu le terme d'autisme qui a été posé au début, en tout cas. Qu'il était différent, qu'il allait évoluer à son rythme, qu'on allait l'aider en lui faisant faire de la pataugeoire, de la psychomotricité, voilà, des choses comme ça. Et puis, moi, entre-temps, je me suis renseignée sur Internet, chose qu'il ne faut pas faire suivant les médecins, hein. Sauf que c'est là que j'ai vraiment trouvé des réponses à mes questions. Il avait tous les symptômes de l'autisme. Il n'y avait pas de secret. Hein. Donc, dans ce centre, on a continué à me dire que, voilà, que je m'en faisais trop, qu'il évoluerait à son rythme. On me disait les enfants comme Dorian. Voilà.
Donc, on le met déjà de côté.
Oui, c'est ça. Et un jour, j'ai fini par me fâcher un petit peu en rendez-vous et j'ai carrément dit à la psy qui était là, vous allez finir par me dire qu'il est autiste, mon fils, parce que oui, il est différent, mais il est autiste. Et puis elle m'a dit, oui, ça relève des troubles envahissants du développement, en effet, voilà. Et donc, en fait, pendant tout ce temps, on a perdu au final 1 an et demi depuis les premiers symptômes, hein. Et là, je lui ai demandé de poser un diagnostic, parce que je voulais réellement des bilans, enfin un diagnostic, un vrai diagnostic. Et elle m'a renvoyée vers le centre ressources autisme des Pays de Loire, donc il y en a un par région, hein, des centres comme celui-ci. Et là, on m'a annoncé 2 ans et demi de liste d'attente.
2 ans et demi de liste d'attente.
2 ans et demi de liste d'attente. Donc j'ai commencé par attendre. En attendant, je me suis formée, j'ai commencé à prendre en charge mon fils à la maison, j'ai arrêté de travailler, enfin voilà. Et puis au bout d'un moment, j'en ai eu un petit peu marre d'attendre parce que je rappelais sans arrêt, pour savoir où en était mon dossier. Déjà, on était incapable de me répondre. Et j'ai fini par trouver l'hôpital Robert Debré à Paris, qui eux me proposaient un diagnostic en 6 mois. Donc mon fils, au final, entre les premiers symptômes à l'âge de 18 mois et le diagnostic posé, il s'est passé presque 5 ans.
Voilà. Et pendant tout ce temps-là, on met l'enfant de côté, on renvoie sur la maman, enfin, avec tout le mal-être que ça peut engendrer, en cercle familial et autres, quoi.
C'est ça.
J'espère que vous passez une belle après-midi dans notre compagnie sur l'autre radio. Nous continuons de parler du mois de l'autisme qui se déroulera à Mayenne tout le mois d'avril. Avec bien sûr Christophe Doussin du centre social Agitato, de Sarah Palardi de Mayenne Communauté et de Virginie Lafourcade de Coxy Bleu. On va parler justement, Virginie, un peu plus de l'association et un petit peu de tes interventions. Tu le disais là tout de suite hors antenne que tu interviens dans les écoles, qu'il y a aussi de la prise en charge, des choses comme ça des parents. Tu peux un petit peu parler plus de Coxy Bleu?
Oui, donc comme je le disais tout à l'heure, nous, notre souci vraiment, c'était d'avoir des professionnels formés. Moi, quand j'ai eu le diagnostic de mon fils, enfin même avant, je voulais absolument qu'il fasse de l'orthophonie, parce que je savais qu'il existait des outils de communication alternatifs au moment où il n'était pas verbal. Puis on m'a répondu que non, comme il n'était pas verbal, ça ne servait à rien qu'il fasse de l'orthophonie. Donc ça me paraissait quand même pas très professionnel. Ça voulait dire en tout cas que l'interlocuteur que j'avais ne connaissait pas très bien le métier d'orthophoniste dans tous les cas. Donc voilà, le but de l'association, c'était vraiment d'avoir de vrais professionnels vraiment bien formés à l'autisme, déjà pour prendre en charge nos enfants, Et puis aussi pour sensibiliser un petit peu les autres professionnels autour, hein, pour que ça fasse un petit peu tache d'huile et que tout le monde parle le même langage, à savoir le langage des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Du coup, on a depuis 2013 une psychologue comportementaliste dans l'association. On a également une ergothérapeute qui est spécialisée dans les troubles sensoriels et les adaptations scolaires. Et ces professionnels-là interviennent auprès de chaque enfant de l'association. Donc en fait, aujourd'hui, nous avons 25 familles dans l'association et 17 enfants bénéficiaires des prises en charge. Donc ça veut dire qu'en fait, ils ont des rendez-vous avec la psychologue qui effectue des bilans cognitifs pour savoir où ils s'en sont vraiment au niveau développement. Elle fait aussi de la guidance parentale pour aider les parents à la maison. Et elle supervise aussi les autres professionnels avec lesquels elle est amenée à travailler sur chaque enfant. Et puis l'ergothérapeute, elle, effectue des bilans sensoriels parce que tous les enfants autistes ont des particularités sensorielles. C'est-à-dire que certains vont entendre le bruit plus fort, certaines fréquences plus fortes. D'autres vont être insensibles au toucher, vont pouvoir tomber et ne jamais se faire mal. Enfin, voilà, ils ont tous des particularités sensorielles qui leur sont propres et elles diffèrent tous en fonction de chaque enfant. Donc c'est pour ça qu'il est très important d'établir un bilan sensoriel. Et puis ce bilan-là peut être après communiqué à l'école aussi pour que les enseignants puissent comprendre justement ce qui peut mettre en difficulté l'enfant. Et après, elle intervient aussi dans les écoles pour la mise en place d'outils de compensation tels que un plan de travail incliné, des stylos ergonomiques, enfin voilà, tout ce qui peut favoriser le confort dans les apprentissages. Donc en fait, toutes ces prises en charge-là sont entièrement financées par l'association, parce que nous, on ne peut pas tolérer que ce soit à la charge des parents quand on sait déjà tous les sacrifices que ça demande aux parents. Et puis après, en complément de ces prises en charge, on a aussi tout un système, comme dans chaque association finalement, de café-rencontres où les parents peuvent se retrouver pour échanger sur leurs difficultés, mais aussi sur leurs victoires. On a aussi une médiathèque et une ludothèque avec des outils adaptés pour les enfants. On fait aussi des actions de sensibilisation, donc là dans le cadre du mois de l'autisme, mais habituellement on fait toujours quelque chose le 2 avril, et puis on intervient auprès des écoles. Voilà, donc là on est vraiment sur la sensibilisation et des enseignants, où là on va être un petit peu plus technique dans notre action de sensibilisation, et puis auprès des enfants, parce que c'est très important pour l'inclusion scolaire, quand on ne connaît pas, on rejette.
Bien sûr.
Et on s'aperçoit au fil de nos actions de sensibilisation. Donc aujourd'hui, on a sensibilisé 11 écoles en Mayenne depuis la création de l'association. On se rend compte que les enfants sont bienveillants quand ils savent de quoi ils retournent. Et ils peuvent être un très grand atout aussi dans la scolarité des élèves en situation de handicap et plus particulièrement dans le cas de l'autisme. Donc voilà ce que l'association.
Avec les enseignants, quels sont les retours que tu peux avoir justement quand t'abordes justement ? Est-ce qu'ils sont réceptifs ou est-ce que parfois c'est plus compliqué ou...
Oui, oui. Je n'ai pas fait une seule action de sensibilisation sans qu'il y ait des retours vraiment très très positifs. Alors oui, j'entends toujours leur grande souffrance dans le manque de formation. Ils me répètent toujours ça, qu'ils ne sont pas suffisamment formés pour accueillir et que les AVS ne le sont pas suffisamment non plus. Mais quand on leur apporte des solutions, ils s'en saisissent. Et je pense que c'est vraiment ça qui est important.
Pour les gens qui nous écoutent là, tu parles donc ces prises en charge, comment ça se passe concrètement pour les gens qui voudraient avoir justement ces prises en charge, ou en tout cas vous rencontrer ou pouvoir accéder à la ludothèque ou autre?
Il suffit de devenir adhérent à l'association.
D'accord.
Donc en fait, chaque famille paye une cotisation de 45 € à l'année et grâce à ces 45 €, ils ont accès à tout ce que
vous
l'on propose.
Vous avez un lieu en fait ? Enfin, ça se fait un lieu ?
Oui, alors nous en fait, on partage les locaux de la psychologue de manière à ce que tout soit sur place.
D'accord.
Donc nous sommes aux 2 rues du Haut-Rocher à Laval. Donc dans son cabinet, voilà, on a une pièce, on a notre bureau et puis elle a son bureau et voilà.
D'accord. Juste pour terminer, la partie financement, c'est que vous financez, vous êtes autofinancé ou enfin comment ça se passe du coup, où il y a des financements d'État ?
Alors non, on n'a pas de financement d'État pour la simple et bonne raison que le troisième plan autisme, parce qu'on a des plans autisme hein, pour essayer 2012, de combler le retard.
D'accord.
ces fameux plans qui sont censés faire évoluer les choses.
Ouais. Bientôt le plan 4, semble-t-il.
Oui, c'est
bien,
fort probable. En tout cas, ce fameux plan autisme préconise de mettre l'argent dans les structures existantes en vue de les former pour qu'ils évoluent. Seulement, depuis 2012, on n'a pas tellement vu les évolutions. Donc, du coup, ils refusent de financer les structures annexes, comme finalement la nôtre. Voilà. Du coup, on bataille pour trouver des financements tous les ans. Hein. Tous les ans, bien évidemment, notre nombre d'adhérents augmente. Ce qui prouve bien, encore une fois, que si on vient chez nous, si on va voir Coxy Bleu pour trouver des professionnels, c'est qu'ils ne sont pas encore là où ils devraient être.
On est bien d'accord.
Donc, on fait plein d'événements, on court après l'argent tout le temps. Et puis, de temps en temps, on a des financements extraordinaires qui peuvent arriver de certaines institutions. Là, en l'occurrence, cette année, on a eu une subvention du conseil départemental qui était assez conséquente, qui a vraiment tenu à soutenir nos actions. Voilà, une autre année, ça a été la CAF, une autre année, la CPAM. Ce qui a été d'ailleurs très très drôle quand on sait que les prises en charge ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Donc en fait, ils nous ont subventionné, nous, pour qu'on prenne en charge la place. Oui, okay. Voilà. Mais c'est tout le système français autour de l'autisme qui marche sur la tête. Donc voilà. Mais oui, on est sans arrêt en recherche de financement. Là, ce soir, à l'occasion de la journée internationale de l'autisme, demain, on fait une soirée Zumba à Bonchamp à 20h, de manière à récolter des fonds. Voilà. C'est tout le temps des événements. On a des bénévoles qui sont très actifs au sein de l'association. Ils vont vendre des saucissons. Ils font plein de choses pour essayer de récolter un maximum de fonds pour qu'on puisse accueillir chaque parent. Parce que moi, quand je reçois des parents à l'association et que je leur dis, non, je peux pas inclure aujourd'hui votre enfant dans le dispositif de prise en charge parce qu'on n'a pas les moyens, je peux vous garantir que c'est difficile.
Oui, c'est incroyable surtout. Enfin, je sais pas, Christophe, en 2016, se retrouver à autofinancer quasiment une association. Enfin...
Ouais, non, mais sûr, on va pas dire que c'est scandale, mais presque. Non, mais enfin, c'est pour ça que moi, je porte toute mon admiration à Virginie, mais globalement aux associations qui se battent au quotidien par rapport pour faire valoir des droits et des parcours difficiles. Et c'est vrai que c'est le grand risque aussi, c'est qu'à un moment donné, ça puisse amener à l'épuisement aussi. Aujourd'hui, c'est porté par Virginie, enfin l'association Coxy Bleu, pardon, est portée par Virginie et certainement bien entourée jusqu'à une éventuelle lassitude. Enfin, on n'est pas, il y a pas nul à l'abri à un moment donné de pour différentes raisons, mais aussi une lassitude de ne pas toujours se faire ouvrir les portes au bon endroit et au bon moment. Ça reste extrêmement fragile et c'est pour ça que je pense que il y a à faire valoir et à faire connaître effectivement de l'engagement de parents dans leur au travers d'une association comme Coxy Bleu qui une fois de plus, enfin je crois que il se serait bien dispensé de la création d'une telle association. Enfin donc je pense que, mais ça c'est toute la limite effectivement de la lutte au quotidien dans l'ombre de tous ces parents qui tentent de faire valoir leur effectivement de se faire entendre, de se faire valoir et sans forcément être toujours bien entendu. Donc c'est effectivement là au jour d'aujourd'hui, j'entendais que le conseil départemental a pu apporter un financement, c'est bien, c'est très très bien et maintenant faut que ça s'inscrive dans des financements pérennes aussi. Et ce qui est pas toujours, on regarde des financements qu'on connaît aujourd'hui et des difficultés que l'ensemble des collectivités globalement peuvent connaître. Je trouve que c'est bien d'avoir soutenu maintenant. Encore faut-il que ça s'inscrive dans le temps.
Juste qu'un simple partenaire, vous êtes maintenant un soutien, j'imagine, de Coxy Bleu. Enfin, j'imagine qu'il y a autre chose que ce mois-là. Enfin, j'imagine qu'il y aura peut-être d'autres démarches après, ou en tout cas, qu'il y a un soutien, en tout cas, sur la ville.
Après, c'est vrai que c'est un partenariat qui ne s'inscrit pas que dans du partenariat ponctuel. La zone de rayonnance de Coxy Bleu, c'est à niveau départemental. Inévitablement, il y a des familles mayennaises confrontées aujourd'hui et malheureusement potentiellement confrontées demain. Et qu'effectivement, moi, comme je le disais tout à l'heure dans mon propos, le centre social Agitato, il reste ouvert, bien évidemment, et il s'engage, et je l'affirme au travers de l'intervention de cet après-midi, dans toute forme de lutte, justement, pour donner la chance à tout à chacun de pouvoir prendre place dans la société aujourd'hui. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a cette opération qui se met en place. Après, demain, tout peut être envisageable, effectivement. L'association Coxy Bleu, pour des raisons matérielles, demande une implantation à Mayenne, ponctuelle ou régulière. Enfin, voilà, tout est envisageable et les sollicitations de toute évidence, auront suite de la part de l'association.
Avec le soutien d'une collectivité, oui, voilà.
Oui, du contrat local de santé. Même si le soutien financier est difficile pour les collectivités au niveau des associations, mais on peut donner des locaux, que ce soit ponctuellement ou pour faire des permanences. On essaye de mettre à disposition des associations, que ce soit l'espace Grimaldi à Mayenne ou dans d'autres locaux, ou là pour les conférences, le théâtre municipal, etc., pour favoriser les actions, la prévention et puis l'information des publics et des familles qui en ont besoin.
Je crois que justement, au-delà de l'aspect financier qui est très 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 important, comme on le disait tout à l'heure, parce que c'est la vie aussi d'une association, et c'est l'encouragement des bénévoles et des parents qui du coup deviennent parents mais aussi bénévoles qui portent les choses. C'est aussi une association, c'est une collectivité, se doit d'être facilitatrice. Mmh. Et c'est, on va pas se mentir, ça coûte rien, quoi. Enfin, ça nous coûte rien. Ça coûte implicitement mettre à disposition un théâtre municipal, ça coûte. On va pas s'en cacher. Mais je dirais que c'est, ça coûte rien par rapport à ce que ça peut apporter.
Voilà. C'est important, soutien, Virginie. Ce soutien, justement. Enfin, c'est essentiel,
oui,
même
sûr,
pour la vie de l'association.
Oui, oui, oui. Et puis, très sincèrement, un projet comme ça sur un mois complet, l'association seule n'aurait pas pu le tenir. C'est évident en termes d'engagement, en termes de mise à disposition de salles, de tout, ça nous a extrêmement facilité les choses, c'est certain.
On va rentrer justement un petit peu dans ce programme du coup pour le découvrir. Il y aura un volet exposition du coup tout au long du mois en fait, qui auront lieu à la Gitato à chaque fois, c'est ça, Christophe ?
Oui, en fait, je vais peut-être le plus laisser Virginie en présenter le contenu, mais effectivement l'idée c'était de bâtir un programme qui veut être le plus riche possible, le plus dense, peut-être avec, enfin, et là qui est construit essentiellement sur trois portes d'entrée support. Moi, je suis assez intéressé sur le fait qu'il y a trois types de supports différents. Ça permet aussi à tout à chacun de pouvoir y rentrer par la porte qu'il souhaite, là où il est aujourd'hui. Je m'en explique. Effectivement, on peut avoir des personnes, des familles qui vont qui font face au problème aujourd'hui, qui vont se sentir concernés partout, des gens qui peuvent tout simplement être dans la curiosité de pouvoir découvrir, de prendre une proposition plus qu'une autre, d'autres peut-être, comme on le disait, être en phase de construction, de lutter contre, travailler le déni, ils ont des soupçons sur leur enfant ou sur quelqu'un de leur réseau proche, et puis sans pour autant être convaincu ou déclaré, et puis de se dire mais pour autant il me semblerait que peut-être il y a un mot à porter, c'est le mot autisme, mais je vais aller par cette porte-là. Donc l'idée effectivement du programme, c'est d'avoir fait quelque chose qui puisse être le plus accessible possible, et permettant à chacun de pouvoir s'y retrouver. Après, dans le contenu, je pense qu'effectivement, donc il y a un contenu exposition, hein, une partie ciné-débat et une partie conférence. Mais là, je vais peut-être plus laisser Virginie,
Virginie présenter
le contenu.
Oui, du coup, on voulait que l'exposition soit tournante de manière à ce qu'on puisse traiter un petit peu tous les sujets qui nous semblaient importants. À savoir déjà mettre en avant les associations locales, donc Coxy Bleu, mais pas seulement, parce que nous sommes pas la seule association en Mayenne, aussi pouvoir donner la parole à Autisme Mayenne et de la visibilité sur cet événement. Du coup, il y aura deux temps où il y aura vraiment une présentation des associations locales pour que les parents puissent découvrir nos associations.
Et au-delà de ça, si je peux me permettre, Virginie, justement, c'est certainement l'occasion, peut-être pour des parents... de profiter d'une présence décentralisée et une vraie présence disponible, pour aller à la question, à la rencontre et poser des questions.
C'est difficile de faire la démarche d'aller vers une association en tant que parent. Moi-même, au début, j'ai eu du mal. J'avais pas forcément envie de rencontrer d'autres parents qui étaient dans la souffrance comme moi à l'époque parce que, bien évidemment, hein, j'ai eu une période de ma vie où ça a été difficile. Hein, pendant quelques mois, je m'en cache pas, je pleurais souvent, c'était compliqué. Et j'avais pas envie d'aller rencontrer d'autres parents qui allaient me tirer encore plus vers le bas, déjà que j'étais bien. Non, c'est compliqué de faire la démarche d'aller vers une association, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pour ça que c'est intéressant de la rendre plus accessible et puis montrer aussi, casser un petit peu les préjugés aussi. Une association, c'est pas forcément des gens qui se lamentent sur leur sort en permanence, enfin voilà. Donc c'était pour nous important de pouvoir donner accès aux associations locales. Et puis on a réutilisé aussi, parce que l'année dernière on a fait une grande exposition sur les particularités sensorielles et les adaptations scolaires avec l'école d'ergothérapie de Laval, Et du coup, on avait beaucoup travaillé sur cette exposition et on avait pas mal de supports. Et on va la réutiliser cette année dans le cadre du mois de l'autisme, avec une partie vraiment axée sur les particularités sensorielles de l'autisme et puis une autre exposition vraiment sur les adaptations scolaires. Là, c'est vraiment là, c'est plus un outil, disons, à destination des professionnels, voilà, qu'ils puissent voir ce qu'il est possible de faire. Et surtout, je pense, prendre conscience que ça ne demande pas un énorme investissement, parce que souvent les professionnels, les enseignants ont souvent l'impression que ça va leur demander beaucoup de temps d'inclure un enfant autiste à l'école, que ça va être compliqué, etc. Alors que souvent il y a des adaptations toutes simples et très rapides à mettre en place qui existent. Donc ça voilà, c'était vraiment sur... ces choses-là pour les expos.
Pour les expos, donc qui auront lieu à la Chitato. Hein,
oui.
Voilà.
Sur les heures d'ouverture.
Voilà.
Sur les heures d'ouverture.
Donc sur les heures d'ouverture, l'exposition sera disponible. Et puis sur chaque exposition, il y aura des temps de présence aussi des associations le matin et en fin de journée le vendredi. De manière à ce que si les gens veulent venir vraiment pour rencontrer un interlocuteur et pour échanger sur telle ou telle exposition, qu'il y ait la possibilité de le faire aussi.
Ensuite, il y a un ciné-débat, c'est ça du coup ?
Oui.
Le mardi 19 avril à 20h.
Oui. Alors, quelque chose en plus, c'est un documentaire qui a déjà été diffusé toute l'année dernière un peu partout en France. Et nous, en Mayenne, on ne l'avait pas fait encore, honte à nous. C'est un documentaire qui est très très intéressant parce que, quand je vous parlais tout à l'heure de la psychanalyse et des anciennes approches vis-à-vis de l'autisme, il faut savoir qu'il y a une espèce de petite guéguerre entre les pro-psychanalystes et puis les pro-méthodes comportementales qui se tirent un peu dans les pattes. Enfin voilà. Et qui du coup véhiculent une mauvaise image des approches comportementales. Et donc le but vraiment dans la diffusion de ce documentaire, c'est de montrer. C'est de montrer, là en l'occurrence il s'agit d'un IME qui pratique la méthode ABA, ben, c'est de montrer qu'on peut mettre en place les méthodes comportementales dans un institut, que ça fonctionne bien, que les enfants sont épanouis, qu'ils sont heureux, qu'on ne les maltraite pas. Voilà, c'est vraiment offrir la possibilité d'avoir un autre regard sur ces méthodes et puis les connaître un peu mieux aussi.
Mais un regard positif, du coup.
Oui.
Celui d'un débat, du coup, il y aura un échange avec le public.
Oui. Donc là, on a choisi de faire venir la réalisatrice du film, Sophie Robert. Donc elle sera là. Et puis on a choisi aussi de mettre en lumière ce qui marche bien en Mayenne. Parce qu'il y a aussi des centres qui fonctionnent très très bien, comme l'IME de Montaudin. Donc c'est un IME qui accueille en particulier des enfants autistes et qui s'est saisi des recommandations de la Haute Autorité de Santé, qui ont mis en place vraiment des choses extraordinaires pour ces enfants. Et donc, je pense que c'était important aussi qu'on montre ce qui fonctionne bien au lieu de taper tout le temps sur ce qui
bien
ne
sûr.
Va pas. Donc, il y aura un représentant de l'IME de Montaudin qui sera présent aussi avec nous. Et puis, il y aura la psychologue de notre association et une orthophoniste libérale qui est aussi formée à l'autisme qui seront là pour intervenir et répondre aux questions.
D'accord. Donc, sans rappel, c'est le mardi 19 avril à 20h et c'est au cinéma Le Vox, hein, à Place Jvel, à Mayenne. Et il y aura aussi une conférence.
Alors, juste avant d'en donner le contenu, c'est moi qui fais cette demande à Virginie, de pouvoir, au travers de tout son parcours...
Oui, c'était pas prévu au début.
Ouais, c'était pas prévu.
Oui, parce que c'est toi qui l'anime, du coup,
oui.
La conférence.
Voilà, mais bon, sur la plaquette, il restait une petite colonne à droite. Je me suis dit, tant que ce peut, autant la compléter. Non, plus sérieusement, je trouvais fort intéressant, justement, de mettre en avant un parcours de parents. Puisque je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, hein, quand, lors de nos premières rencontres, Virginie a pu présenter... au travers de son association, mais en effet miroir, tout son parcours. Et j'ai trouvé ça, mais d'une... Enfin, ça devait être communiqué. Ça méritait d'être partagé, d'où cette proposition que j'ai pu faire. Voilà, et donner la possibilité à Virginie de venir nous relater une expérience parmi d'autres, mais qu'est la sienne.
Oui, donc j'ai beaucoup travaillé. Hein. Ma conférence est prête, ça y est.
C'est pas facile d'animer une conférence comme ça.
Non, c'est pas facile d'être à la radio non plus. Mais bon, ça fait partie aussi de notre engagement. Ça fait partie des choses qu'on est censé faire si on veut que ça change. Donc, j'ai fait le choix, oui, que cette conférence soit basée sur ma propre histoire parce que c'est ce que je maîtrise le mieux, mais aussi sur les autres parents de l'association, sans les citer parce que le but n'est pas de mettre qui que ce soit mal à l'aise, mais de permettre vraiment aux gens de comprendre... qu'est-ce que c'est que d'être parent d'enfants autistes. Voilà. Et on a décidé d'ailleurs de l'appeler parent atypique parce que ça fait de nous des gens différents. Ça nous change vraiment d'être parent d'enfants autistes. On voit le monde différemment. Et puis on porte pas mal de casseroles derrière notre dos, quoi. Donc je pense que ça, c'est important aussi que les gens l'entendent parce que je vois souvent à l'école des enseignants qui disent oui, mais avec les parents de cet enfant-là, on peut pas communiquer, c'est compliqué, ou alors il est tout le temps sur la défensive, etc. Mais je pense qu'ils comprennent pas aussi à quel point les parents, ils en bavent.
On fait une petite pause musicale, on se retrouve juste après pour conclure cette émission. Le mois de l'autisme à Mayenne, le mois d'avril, comprendre pour construire ensemble une société inclusive. On vous rappelle rapidement, il y aura 4 expositions au Centre Social Agitato tout le long du mois. Il y aura un ciné-débat qui aura lieu au Vox à Mayenne, place Juvel, sur un reportage quelque chose en plus. Il y aura une conférence intitulée, Parents atypiques. Tout ça, c'est gratuit, sauf le ciné-débat, 4 euros. Voilà. On vous rappelle ce programme. Merci d'être venu. Un petit mot pour conclure, Christophe.
On vous dit, enfin, on souhaite vous retrouver au mois d'avril. Je pense qu'il y a fort à apprendre, enfin, qu'on soit concerné ou pas. Je pense qu'on a tout à chacun à prendre justement pour démystifier et enlever ces cloisons qui peuvent exister aujourd'hui et trop souvent à tort. Donc, je crois que le programme qui vous est proposé, c'est un mot aussi de découverte, quoi, aussi.
Sarah, un petit mot pour conclure.
Oui, je rejoins Christophe sur ce qu'on peut être pas directement concerné, mais l'inclusion, en fait, ça concerne tout le monde et on peut accueillir un enfant autiste dans plein de structures, donc c'est important d'être informé.
Important d'être informé, Virginie.
Oui, c'est tout l'enjeu de ce mois de l'autisme qu'on a appelé... comprendre pour construire ensemble une société inclusive, c'est bien ça tout l'enjeu. Aujourd'hui en France, on a encore tendance à mettre les gens dans des cases et pas trop se mélanger ensemble, alors que tous ensemble, c'est quand même vachement mieux.
Et qu'on a tous à apprendre de l'autre, oui. Et à s'enrichir de l'autre.
Oui, bien sûr. Et puis l'autisme, quand on se plonge vraiment dans l'autisme et qu'on cherche à comprendre, c'est vraiment passionnant. C'est passionnant de voir le monde à travers leurs yeux. Ils ont une pensée qui est logique, tout est logique, une pensée au premier degré, tout a un sens. Ils ne savent pas mentir, ils sont des êtres profondément humains. Longtemps, on a dit que les autistes n'avaient pas d'empathie. Or, c'est totalement le contraire, ils sont très, très empathiques. Voilà, il suffit juste de les aider à s'intégrer.
Merci beaucoup Virginie pour ce combat, pour ton combat avec l'association en tout cas. On rappelle qu'on peut retrouver cette programmation un peu plus détaillée sur le site internet du Centre Social Agitato, de Mayenne Communauté et bien sûr de Coxy Bleu. Merci à tous les trois.
Merci de nous avoir ouvert l'antenne.
Merci en tout cas d'être venus. C'était un plaisir. La musique continue sur le 3 Radio. À bientôt.